Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien en direct sur Radio Campus 88.1.
Nous sommes les dealers de science pour vous présenter Science à l'antenne. Quel est le sujet du jour, Clara ?
Bonsoir Gabrielle, ce soir on vous propose une exploration de haute voltige.
À la rencontre des oiseaux les plus extraordinaires de notre planète.
Allez, accroche-toi à mes ailes, Gabrielle. Coucou ma gaboche, t'as bien dormi ?
Ah, très bien, et toi ?
Oui, enfin, t'as un peu ronflé, mais c'est pas grave. Tu veux un peu de café ?
Ah, bah super, une bonne matinée qui commence. Je veux bien du café, oui ma Clara.
Il y en a plus, faut que j'aille en racheter cet après-midi.
Quoi ? Pas de café ?
Mais il y a des biscottes, hein, si tu veux. Hein.
Pas de café, des biscottes sans beurre, et ce soir ce sera tisane et couché à 20h. On est devenu quoi, là, Clara ?
Bah, tu parles de ma verveine que je fais pousser dans le jardin. Je ne sais vraiment pas ce qu'il te faut de plus.
On sent pâte, on sent lierre, on a mal à nos lombaires quand on monte 3 marches. On n'est pas allé plus loin que Limoges depuis 3 ans.
Tu vas quand même pas me demander d'aller à Paris.
Non, j'oserais pas, mais un peu d'aventure nous ferait du bien.
Et voilà, pars à l'aventure, va ouvrir la porte s'il te plaît.
Oh, mais c'est encore Maxime qui vient nous raconter les actualités comme tous les matins.
Salut Gab, salut Clara. Je vous réserve 2 sujets aujourd'hui. On va parler de l'adaptation au changement climatique et d'eau irradiée dans l'espace à plus de 1000 années-lumière de nous.
Tu commences avec un gros morceau, dis donc.
Énorme, tu veux dire. 725 pages, c'est la taille du rapport annuel de la Cour des comptes publié hier. Il aborde longuement la question de l'adaptation au changement climatique. Le rapport a été présenté publiquement par le président de l'institution, Pierre Moscovici, qui est également intervenu au micro de France Culture hier matin. Il fait le constat d'un kaléidoscope de réponses, mais déplore qu'elles ne soient pas articulées, d'où l'impératif de planifier. Moscovici met également en garde contre un mur d'investissement quand les auteurs du rapport regrettent que, je cite, « dans certains domaines, l'État ne joue pas correctement son rôle de stratège, qui consiste notamment à fixer des objectifs et à définir une trajectoire pour les atteindre ». Les magistrats ajoutent que « l'évaluation des coûts actuels et futurs de l'adaptation est lacunaire, voire inexistante, faute de données suffisantes mais également parfois d'objectifs clairs ».
Ouais, donc en gros, le gouvernement est nul, quoi, comme d'habitude.
C'est une autre façon de le dire, oui. Mais le rapport salue tout de même une prise de conscience. Rappelons en effet que le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avait lancé en mai dernier une grande consultation nationale pour préparer la France à un scénario de réchauffement de plus 4 degrés, qu'il avait alors qualifié de pessimiste. Mais comme l'a très justement rappelé le climatologue Christophe Cassou à l'époque, il s'agit en fait du scénario tendanciel le plus probable au vu des politiques actuelles. Précisons au passage que ce chiffre ne concerne que la France et non le monde, car l'Europe se réchauffe davantage que la moyenne mondiale. Pour en revenir au rapport, il préconise de grandes transformations impliquant par exemple une adaptation des centrales nucléaires aux sécheresses ou encore une mise à niveau du réseau ferré pour supporter les fortes chaleurs. Malheureusement, ça ne semble pas être pour tout de suite. Vous avez peut-être entendu parler des coupes budgétaires de 10 milliards d'euros annoncées par Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie. Eh bien devinez quel ministère s'est fait plumer en priorité ?
L'écologie.
Bingo ! Ce sont pas moins de 2,318 milliards qui vont être sucrés du budget prévu pour l'écologie, le développement et les mobilités durables. Comme le dit très justement Pierre Moscovici, il serait très paradoxal d'aller taper dans le secteur sur lequel on a le plus besoin d'investissement. Ce n'est pas ce que je recommanderais. On part dans l'espace à présent, avec une étude publiée dans Nature Astronomy. Grâce au télescope spatial James Webb, une équipe internationale a pu déceler un étrange cycle de l'eau dans un système stellaire en train de se former dans la nébuleuse d'Orion à 1350 années-lumière de la Terre.
Mais attends, normalement les cycles comme celui de l'eau n'ont lieu que sur des planètes déjà bien formées, non ? Comment ils pourraient se dérouler dans l'espace ?
C'est qu'il ne s'agit pas de simples changements d'état comme sur Terre. Dans le disque protoplanétaire du doux nom de D203-506, l'eau présente dans l'espace se fait décomposer par les puissants rayonnements ultraviolets émis par des étoiles massives qui entourent le système. Il perd ainsi l'équivalent de tous les océans terrestres chaque mois. Mais le résidu de cette décomposition finit par reformer de l'eau au bout d'un moment. Seulement, l'eau issue de ce cycle a la particularité d'être appauvrie en deutérium, l'isotope lourd de l'hydrogène. Et il se trouve que l'eau présente sur Terre a la même propriété, ce qui peut suggérer qu'elle a peut-être connu le même processus il y a de ça plusieurs milliards d'années avant d'arriver sur notre planète.
C'est bien beau tes histoires d'eau appauvrie, mais ça change quoi ? Ça reste quand même de l'eau au final.
En effet, mais l'eau appauvrie, qu'on appelle aussi eau légère, a des propriétés légèrement différentes de l'eau lourde enrichie en deutérium. Elle est notamment 2,7 fois plus acide que l'eau lourde. Et des différences pareilles, ça peut tout changer pour un potentiel écosystème. Il suffit de voir à quel point l'acidification des océans sur Terre affecte la biosphère marine. L'acidité est donc un paramètre important pour l'émergence et la pérennité de la vie telle qu'on la connaît.
Eh bien, ça m'a pas donné l'eau à la bouche, ces actualités de bon matin comme ça.
C'est peut-être les biscottes.
Oh, vous avez des biscottes ? J'en veux bien une aussi.
Oui, oui, une autre fois peut-être. Merci Maxime, à demain matin.
Bon, je vais me poser dans la télé, moi.
Oh, mais non, pas encore Plus belle la vie.
Bah très bien, je change de chaîne. Regarde, en plus, il y a Arthur Leblois qui parle de l'apprentissage du chant des oiseaux.
Oh, mais plus fort.
Bonjour Arthur Leblois. Vous êtes chargé de recherche CNRS au sein de l'Institut des maladies neurodégénératives et plus précisément l'un des deux chefs de l'équipe dynamique des réseaux de l'apprentissage procédural. Nos auditeurs et auditrices se demandent sans doute pourquoi un neuroscientifique est invité dans une émission consacrée aux oiseaux. Eh bien, c'est très simple. Il se trouve que Monsieur Leblois est spécialisé dans l'apprentissage du chant chez ses chers dinosaures emplumés. Une première question pour introduire votre sujet. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'apprentissage procédural ?
Bonjour, merci de m'avoir invité à cette émission. Alors l'apprentissage procédural et la mémoire procédurale en général, c'est une mémoire à long terme qui est une mémoire implicite par opposition à la mémoire déclarative, qui est la mémoire des noms, des lieux dont on a conscience. La mémoire procédurale, c'est comme son nom l'indique, une mémoire de procédure, souvent une mémoire de mouvement, par exemple la capacité à faire du vélo, à jouer d'un instrument de musique, et tous les mouvements un petit peu complexes qu'on a appris par essai et erreur reposent sur une mémoire qui s'appelle la mémoire procédurale.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que quand les oiseaux apprennent à chanter, ce n'est pas comme nous on apprend une chanson, c'est plus comme si on apprenait à parler.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de parallèles entre l'apprentissage du chant chez les oiseaux qu'on appelle les oiseaux chanteurs et l'apprentissage
de la parole.
Donc, juste rapidement, il faut bien comprendre que quand on parle, en fait, on reproduit des sons qu'on a entendus petits à l'aide de nos cordes vocales qui sont des muscles. Donc en fait, la parole, c'est avant tout des mouvements précis, un ensemble de coordination motrice qui permet des mouvements très précis de nos cordes vocales. Et les oiseaux chanteurs, qui ont un chant complexe, apprennent mais aussi à reproduire les vocalisations des adultes qu'il y avait autour d'eux quand ils étaient petits.
Alors justement, pourquoi avoir choisi les oiseaux comme cobayes ? D'autres animaux, des mammifères par exemple, ne seraient-ils pas plus proches de l'être humain et donc plus pratiques pour faire le lien avec ces derniers ?
Alors effectivement, tout modèle animal a ses avantages et ses inconvénients, et ce que vous venez de citer, c'est probablement l'inconvénient majeur de l'oiseau par rapport aux modèles les plus utilisés en laboratoire, en neurosciences, que sont essentiellement les rongeurs, hein, puisque l'essentiel des neurosciences se fait sur des rongeurs, même si pour des projets translationnels, on utilise parfois également des primates, et pour des questions précises, d'autres modèles animaux plus rares. Alors pourquoi on travaille sur l'oiseau ? Alors, l'oiseau chanteur présente de nombreux avantages. La première, c'est que l'apprentissage du chant est un apprentissage naturel qui repose sur les mêmes régions du cerveau qui nous permettent à nous de faire notre apprentissage procédural et qui s'appellent les ganglions de la base. Ces ganglions de la base, qui sont des régions profondes de notre cerveau, sont les régions qui sont atteintes dans la maladie de Parkinson notamment, d'accord, qui sont liées à des troubles du mouvement, une maladie qui est liée à des troubles du mouvement. Donc, ces oiseaux ont comme nous ces mêmes structures du cerveau, les ganglions de la base, qui fonctionnent de manière très similaire. Et surtout, ce qui est très intéressant pour nous en tant que neuroscientifiques, c'est que le chant étant une tâche extrêmement importante dans l'évolution, puisque c'est ce qui permet à l'oiseau mâle d'attirer la femelle ou de défendre son territoire, eh bien, il y a une forme de spécialisation dans le cerveau avec une partie importante du cerveau qui est dédiée uniquement à l'apprentissage du chant. Et donc ces oiseaux présentent un circuit des ganglions de la base qui est très proche du circuit utilisé chez les mammifères et notamment chez les primates et chez les êtres humains, mais avec une région distincte uniquement pour produire le chant. Et donc nous, quand on se pose la question de comment fonctionne le réseau pour l'apprentissage, on a là un très joli modèle dans lequel on sait que les neurones sont spécialisés uniquement pour le chant.
Alors justement, vous avez évoqué le terme d'oiseau chanteur, mais du coup, à quel oiseau ça correspond ? Quels oiseaux vous étudiez pour vos recherches ?
Alors, nous, en laboratoire, on travaille particulièrement beaucoup sur le diamant mandarin, pas uniquement, mais essentiellement. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord, je voudrais revenir sur ce qu'on appelle les oiseaux chanteurs. Les oiseaux chanteurs, c'est globalement la famille des passereaux. Donc, ce sont les oiseaux qui se tiennent sur des branches pour faire leur chant et qui ont généralement un chant assez complexe. On peut exclure, par exemple, les pigeons ou d'autres oiseaux qui vont avoir des vocalisations, mais qui ne sont pas des vocalisations apprises, qui sont des vocalisations qui seront produites même si l'oiseau n'a jamais été exposé à des vocalisations de son espèce, comme un chat et un chien aboient, sans que la forme de un chien aboie, pardon, et un chat miaule, sans que la forme de leur vocalisation dépende d'un apprentissage. Chez les oiseaux chanteurs, au contraire, donc par exemple les merles, les rossignols, les canaris, Tous ces oiseaux qui ont un chant complexe, ils ont besoin d'avoir été exposés aux vocalisations de leur espèce pour apprendre correctement ces vocalisations. Donc ce sont des passereaux, et voilà, c'est une grande famille d'oiseaux avec plusieurs milliers d'espèces. Alors pourquoi on travaille sur le diamant mandarin ? Il faut savoir que pour un modèle animal de laboratoire, il y a plusieurs conditions qui doivent être remplies. La première, c'est que ce soit un oiseau qui soit élevé, donc domestiqué, qui se reproduise bien en captivité. Il y a des travaux de neurosciences sur des animaux sauvages qui ne sont pas en captivité, mais c'est évidemment beaucoup plus complexe et ça pose d'autres questions éthiques. Et le diamant mandarin est un oiseau chanteur qui est élevé depuis des siècles dans différents pays. Donc ça ressemble à c'est un petit moineau gris avec des joues oranges. Certains des auditeurs l'ont probablement rencontré. C'est un des oiseaux les plus faciles à élever chez soi. Donc il y a cette facilité de l'élevage, d'une part, le fait qu'il se développe assez rapidement, en 3 mois il est mature, il y a un dimorphisme sexuel, le mâle a les joues oranges, on le reconnaît, c'est le mâle qui chante et qui nous intéresse. Donc tout ça, ce sont des avantages pour l'expérimentation qui nous concerne.
Alors le sujet même de vos recherches nous apprend que le chant des oiseaux n'est pas inné mais bien acquis par l'apprentissage. Est-ce que vous avez pu déceler chez vos oiseaux des différentes étapes dans l'apprentissage du chant ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, l'apprentissage du chant, je disais, a des parallèles avec l'apprentissage de la parole chez l'humain. Et il y a des parallèles déjà au niveau grossier des étapes d'apprentissage. Par exemple, le jeune enfant, comme le jeune oiseau, a d'abord une période d'apprentissage qu'on dit sensorielle, c'est-à-dire qu'il doit mémoriser, donc être exposé aux vocalisations des adultes. Et c'est pareil chez les oiseaux. Et ensuite, il y a une période dite sensorimotrice, pendant laquelle le jeune va produire des sons qui au début sont très aléatoires, très variables. On parle de babillage chez l'enfant et parfois on parle de babillage aussi chez l'oiseau. Il y a un terme en anglais qui s'appelle subsong qui décrit ce babillage de l'oiseau au début de l'apprentissage. Et petit à petit, les sons vont ressembler de plus en plus aux vocalisations de l'adulte. Donc cette période sensorimotrice va permettre un raffinement des vocalisations et ça se termine par ce que l'on appelle chez l'oiseau la cristallisation qui à peu près au moment du passage à l'âge adulte et ça correspond en fait chez l'être humain au moment où on est moins plastique, où on est moins capable d'apprendre des nouvelles langues, notamment après l'adolescence. Donc ces phases sont les mêmes chez l'oiseau et chez l'homme. On dit depuis sensorimoteur, même s'il y a parfois un overlap entre les deux. Et il y a ce qu'on appelle des périodes critiques, c'est-à-dire qu'il y a un âge après lequel, si la première phase sensorielle n'a pas été effectuée, si on n'a pas été exposé à des vocalisations, on n'est plus capable d'apprendre. Et ça, c'est vrai chez les oiseaux également. L'exemple de l'enfant sauvage est une belle illustration de ces périodes critiques.
Très bien. Alors, comment vous travaillez au quotidien ? Est-ce que vous apprenez vous-même aux oiseaux à chanter ou bien vous contentez de les observer ?
Alors justement, le grand avantage de l'oiseau chanteur pour étudier l'apprentissage moteur, c'est que c'est une tâche qui est naturellement apprise. Par rapport, par exemple, à des travaux similaires chez des rongeurs qui vont nécessiter l'entraînement pendant souvent plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des individus sur des tâches motrices complexes. Là, nous avons des animaux qui vont eux-mêmes faire l'acquisition naturellement, simplement en étant élevés avec leurs parents. Donc, une grande partie de nos études repose sur cet apprentissage naturel. Cependant, il peut arriver que nous ayons envie nous-mêmes d'induire une plasticité, par exemple, de modifier l'une des syllabes du chant. Et on va forcer un petit peu l'oiseau à modifier une des syllabes du chant avec des protocoles expérimentaux qui ont été utilisés dans plein de labos et qu'on utilise actuellement dans mon laboratoire et qui permettent en fait de modifier ce que l'oiseau entend quand il chante. On a en fait un ordinateur qui enregistre en continu le chant de l'oiseau, les syllabes sont détectées et sur une syllabe particulière, on va jouer à travers des enceintes un bruit blanc, un tchit, qui va se superposer au chant de l'oiseau quand les propriétés de la syllabe sont pas celles que nous souhaitons imposer. Par exemple, pour forcer l'oiseau à augmenter la fréquence, c'est-à-dire la hauteur d'une de ses notes, À chaque fois qu'il joue une version un peu plus basse de la fréquence, on va superposer ce son et du coup l'oiseau va entendre son chant avec cette distorsion que l'on impose et il va essayer de l'éviter et on va pouvoir comme ça induire une plasticité qui est en fait un petit apprentissage supplémentaire. Ça nous permet de l'induire chez l'adulte uniquement sur une syllabe, ce qui nous permet de regarder ensuite comment cette syllabe se comporte par rapport aux autres ou comment l'activité du cerveau est différente pendant cette syllabe par rapport aux autres.
Alors, étudiez-vous vos oiseaux seuls ou en petits groupes ou bien dans un contexte plus social avec de nombreux volatiles réunis ensemble?
Alors, c'est une question très intéressante. Une grande partie des travaux qui concernent vraiment la mémoire procédurale en soi est faite sur l'oiseau isolé, on va dire. Donc moi, je fais une grande partie de mes travaux sur des oiseaux qu'on laisse chanter quand ils sont seuls. Mais de plus en plus de questions se posent sur les interactions sociales. Notamment, on sait que l'apprentissage repose pas uniquement sur la capacité de l'oiseau à s'entendre et à reproduire ce qu'il a entendu, mais également sur des interactions avec les parents, qui sont très importantes chez l'homme pour l'apprentissage de la parole, mais aussi chez l'oiseau pour l'apprentissage du chant. Et ça, c'est des particularités de l'apprentissage vocal qui sont encore méconnues aujourd'hui et qui sont étudiées dans certains laboratoires. Alors, ça ne fait pas partie des questions que j'étudie actuellement, mais ce sont des questions très importantes dans le domaine. Et il y a de plus en plus d'études qui se font dans un contexte social. Et d'autre part, il y a d'autres vocalisations qu'on appelle les cris, qui ne sont pas du chant, mais qui sont plutôt une manière des oiseaux de communiquer entre eux, par exemple pour prévenir d'un prédateur, ou se dire, les parents, quand ils couvent les œufs, peuvent se dire, attention, je vais sortir du nid très longtemps. Il y a des études qui montrent ça, c'est très joli. Et donc, ces cris, qui sont vraiment une communication sociale, sont aussi de plus en plus étudiés dans le domaine.
Alors, vous l'avez rapidement évoqué auparavant quand vous parliez du bruit blanc. Vous travaillez un petit peu avec l'outil informatique. Alors, vous êtes parfois amené à interagir avec vos oiseaux en utilisant des ordinateurs, ce fameux bruit blanc. Mais est-ce qu'il vous arrive aussi de leur faire écouter des enregistrements de leurs congénères ou des simulations, par exemple ?
Alors, moi, je l'ai finalement assez peu fait dans mes recherches ces dernières années. Mais oui, il y a pas mal d'études dans d'autres laboratoires qui travaillent sur le même modèle animal qui utilisent des enregistrements. Alors, il y a plusieurs types d'études. Certaines qui vont en fait prendre un oiseau au milieu de son apprentissage naturel et remplacer le tuteur par une stimulation auditive avec un chant qui a été légèrement modifié pour voir dans quelle mesure il va être capable de modifier certaines syllabes. Et donc là, on va fabriquer un chant artificiel qui est le chant de son tuteur naturel avec certaines modifications des syllabes qu'on veut étudier. Ça, c'est une possibilité. Récemment, je sais qu'il y a de plus en plus de développement aussi d'outils d'intelligence artificielle pour produire des sons d'oiseaux qui vont être modifiés à l'envi par l'expérimentateur. Et j'ai moi-même travaillé sur un modèle qui travaille sur un modèle génératif, donc qui est un réseau génératif pour produire des syllabes de canaris cette fois-ci. Donc c'est aussi un travail que l'on fait, mais on n'a pas forcément exposé les oiseaux. Pour l'instant, on a juste essayé de voir comment le réseau permettait de les générer, mais dans l'idée, à l'avenir, de pouvoir utiliser des champs artificiels dans ce genre de protocole.
Alors, allons de l'oiseau à l'être humain. Qu'est-ce que l'apprentissage du chant chez les oiseaux vous a appris de l'apprentissage chez l'être humain ? Et quelle potentielle pratique vous pouvez trouver à vos recherches aujourd'hui ?
Alors, moi, je me place vraiment dans un cadre assez fondamental d'essayer de comprendre le fonctionnement de ces structures du cerveau. Ce que j'ai moi-même compris et ce qu'on a compris avec des collègues à travers le monde qui travaillent sur le même modèle animal sont plutôt des avancées fondamentales en termes de compréhension du fonctionnement de ce système des ganglions de la base et notamment de ce que l'on appelle l'apprentissage par renforcement qui est en fait l'algorithme, on va dire, dont on pense qui est utilisé par le cerveau pour l'apprentissage procédural. Donc il y a eu beaucoup de progrès en ce qui concerne en fait le parallèle entre l'activité neuronale observée et les différentes propriétés nécessaires à l'apprentissage machine, qui est un apprentissage par l'apprentissage renforcement par les machines qui est implémenté. Il y a beaucoup de parallèles, il y a des similitudes et des différences qui nous permettent de mieux comprendre un petit peu les algorithmes implémentés dans le cerveau. Ensuite, pour le parallèle avec l'homme, je travaille dans une équipe avec des collègues qui travaillent sur des rongeurs ou sur des primates dans le cadre de la compréhension de l'apprentissage moteur, mais aussi des mécanismes de la maladie de Parkinson et plus généralement des troubles du mouvement qui incluent également les dystonies ou les maladies de Huntington. Et nous avons actuellement un grand projet qui essaye de faire un projet translationnel qui essaye de transcrire chez des patients une compréhension qu'on a des mécanismes pathophysiologiques qui sont observés chez des mammifères. Et mon travail chez l'oiseau permet beaucoup au sein de l'équipe d'informer sur les mécanismes qui sont communs en fait à l'ensemble des vertébrés du fonctionnement de ce réseau, notamment en termes d'algorithmie, comme je disais, et d'implémentation des différentes fonctions dans les populations de neurones de ce grand réseau de l'apprentissage procédural. Notamment le rôle de la dopamine qui joue un rôle de renforcement, ce qui avait été observé chez les rongeurs dans des cadres très artificiels en laboratoire où l'expérimentateur donne une récompense lorsque le mouvement est bien fait. Mais c'est également le cas chez l'oiseau, lorsque le chant plaît à l'oiseau, on a en fait plus de dopamine qui est libérée dans le cerveau, et c'est probablement ce qui se passe chez l'enfant lorsqu'il produit des sons qui sont proches de ce qui a été produit par sa mère ou son père. Donc ce sont des liens pour l'instant indirects, mais les travaux futurs permettront probablement de créer de plus en plus de liens.
Alors pour terminer, l'usage des animaux de manière générale en laboratoire est de plus en plus remis en question, notamment en lien avec les questions de maltraitance animale, mais aussi de façon plus générale dans notre rapport avec les autres espèces vivantes. Comment conciliez-vous ces préoccupations avec votre travail ?
Alors c'est un point très important que j'aime beaucoup évoquer en dehors de mon travail, dès que le contexte le permet. L'expérimentation animale aujourd'hui est beaucoup remise en question pour des raisons éthiques qui sont tout à fait légitimes, mais moi j'y oppose, on va dire, plus tôt. L'expérimentation animale a évidemment des problèmes éthiques et nous devons nous soucier notamment de la douleur animale. Il y a deux points importants. Un point, c'est infliger de la douleur, donc la maltraitance animale dont vous parliez. L'autre point, c'est la valeur de la vie animale. Il faut bien dissocier ces deux points. Sur le point de la maltraitance et de la douleur, on est aujourd'hui en expérimentation animale avec des standards qui sont très très loin devant les standards de beaucoup d'autres domaines de notre société. Je pense notamment à l'agroalimentaire, dans lesquels on n'a pas du tout les mêmes standards que ceux qu'on a au laboratoire. Pour parler du même type d'animaux, les poulets ou les canards de l'industrie alimentaire sont bien moins bien traités que mes oiseaux au laboratoire en termes de traitement de la douleur et de prise en compte de leurs besoins essentiels en termes d'espace dans l'hébergement et des choses comme ça. Ensuite vient la considération de la vie de l'animal. Est-ce que le travail de recherche vaut de prendre la vie d'un animal ? Et à ce niveau-là, il me semble qu'il y a d'autres priorités. Je veux dire qu'on a besoin de limiter énormément l'utilisation de la vie animale avant que l'expérimentation devienne une priorité. Il faut garder en tête que l'expérimentation animale est très, très, très loin derrière en termes de nombre de vies prises par rapport à l'industrie agroalimentaire ou même simplement par rapport aux chats domestiques. Hein, ça paraît idiot, mais pour quelqu'un qui travaille sur les oiseaux comme moi, c'est très important de rappeler que les chats domestiques tuent bien, bien plus d'oiseaux dans les jardins aujourd'hui qu'il y en a qui meurent dans les laboratoires. Ils tuent même bien plus d'oiseaux qu'il y a de rongeurs qui sont tués dans les laboratoires aujourd'hui. Donc, il me semble qu'il y a des questions de priorité. C'est très important de considérer ces questions éthiques, mais ce serait dommage de pointer l'expérimentation animale quand en fait le problème n'est pas vraiment là aujourd'hui en termes de maltraitance animale dans notre société, il me semble. Il y a une surveillance nécessaire et on a des standards qui ont énormément changé ces 20 dernières années, c'est une bonne chose, mais il ne faudrait pas que l'expérimentation animale soit le seul bouc émissaire entre guillemets de cette lutte, et je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire dans d'autres domaines avant de remettre en question l'utilisation des animaux dans nos laboratoires.
Je vous remercie
discussion ouverte.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et je vous souhaite donc une bonne fin de journée.
Les oiseaux sont fascinants. Ça te donne pas envie de partir à l'aventure, à la découverte de toutes ces espèces, toi ?
Si ça te fait plaisir.
Attends, c'est un oui ? Ne bouge surtout pas, je vais faire nos affaires et on part tout de suite.
J'aurais bien eu besoin de café, moi aussi.
Clara, Clara, regarde par la fenêtre. On n'a pas vu de décor aussi exotique depuis des années.
Oh oui, c'est vrai que c'est plutôt joli, ça nous change.
J'ai hâte d'arriver. J'ai vu sur internet, la réserve naturelle a l'air incroyable. Il n'y a que des bons avis sur TripAdvisor.
Oui, là, tu vas rater la sortie. Attends, je mets de la musique pour te faire patienter. Tiens, Birds de Imagine Dragons, pour rester dans le thème. In the blood, we were the flood, we were the body and two lives, one life, sticking it out, letting you down, making it right. Seasons, they will change, life will make you go, change will make you cry, cry, cry. Everything is temporary, everything will slide, love will never die, die, die. I know that you watching the leaves, changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow, death can make you high, high, high. Everything is temporary, everything will slide, love will never die, die, die. I know that you.
Ah, voilà l'entrée, ma Clara, ça va être génial. Je sens qu'on va sortir plus forte de cette aventure.
Oui, sûrement. Regarde le petit bonhomme là-bas avec son chapeau. Il raconte des trucs, ça devrait te plaire.
Regarde son badge, il s'appelle My League.
Tiens, j'entends des oiseaux.
Attends, on dirait plus de la musique. Ce doit être Maëlie qui débute la visite. Allons voir. Maëlie, tu nous entends ? Maëlie !
Clara, Gabriel, soyez les bienvenus. J'étais en train de réfléchir aux oiseaux et à leur place dans la musique occidentale.
Par contre, elle est un peu forte, on a du mal à s'entendre.
Ah, vous inquiétez pas, j'ai coupé le son.
Bon, je disais donc, les oiseaux ont très tôt intéressé les compositrices et compositeurs de musique classique et de musique occidentale de manière générale. Après tout, leur chant a depuis longtemps ravi nos oreilles et nous avons cherché à les imiter à notre façon.
Effectivement, ça ne me surprend pas. Mais du coup, elle est ancienne cette musique que tu écoutais ?
Elle a presque 5 siècles. Le compositeur français Clément Jeannequin, l'un des plus grands maîtres de la polyphonie et de la musique descriptive, l'a écrite en 1528.
Elle date de la Renaissance. C'est impressionnant qu'elle soit parvenue jusqu'à nous. Par contre, qu'est-ce que tu entends par polyphonie et musique descriptive ?
Eh bien, dans le mot polyphonie, poly vient du grec polus, signifiant plusieurs, et phonie, du terme phonie, qui voulant dire voix. C'est la musique à plusieurs voix, plusieurs lignes mélodiques qui caractérisent l'entrée dans la Renaissance pour cet art. La musique descriptive, quant à elle, correspond, comme son nom l'indique, à l'utilisation de sons, ici des voix, pour décrire quelque chose d'autre. Dans le chant des oiseaux, Clément Jeannequin utilise de nombreuses onomatopées pour décrire les piaillements de ses chairs volatiles et s'attache à rendre l'espèce reconnaissable tout en respectant les contraintes formelles de son époque, à savoir donc la polyphonie, donnant ainsi ce résultat si caractéristique.
Et après lui, les compositeurs et compositrices ont continué à mettre en musique les oiseaux ?
Bien entendu. Prenons par exemple la période musicale suivant directement la Renaissance, la musique baroque. Les oiseaux y ont été très présents, et chez de nombreux et nombreux artistes. De Dandrieu à Rameau, en passant par Vivaldi, il y a eu de nombreuses œuvres dans différents styles à s'y essayer.
Vivaldi, je connais. Il a composé les 4 saisons.
Tout à fait. Et comme les 4 saisons, d'ailleurs, Il Galdellino, le Chardonneret, est un concerto soliste.
Un concerto soliste ?
Un concerto soliste, c'est une œuvre orchestrale dans laquelle un soliste ou un groupe de solistes va discuter, converser avec le reste de l'orchestre. Vivaldi était l'un des plus grands maîtres de ce genre qu'il a largement contribué à créer et populariser en Italie avant qu'il ne se répande dans le reste de l'Europe. Écoutez plutôt.
Ah oui, on entend bien le chant et l'échange avec les autres musiciennes et musiciens. Et le chardonneret est représenté par la flûte à bec.
Exactement. Et la période suivante, la musique classique proprement dite, n'a pas oublié les oiseaux non plus. Écoutez donc. Comme vous pouvez l'entendre, le hautbois dans cette 83e symphonie de Joseph Haydn évoque...
Une poule ? Sérieusement, une poule ? De tous les oiseaux possibles, ton vieux compositeur...
C'est un choix étrange quand même.
Je ne prétendrai pas le contraire. Le hautbois évoque ici le caquettement de la poule, mais ce n'était pas vraiment l'intention du compositeur au départ. L'interprétation comme telle de ce second thème du premier mouvement de la symphonie s'est imposée après sa composition. Est-ce que Haydn y a tout de même pensé lors de l'écriture ? C'est possible, et ça n'aurait pas été la première fois qu'il s'amuse ainsi. Il faut dire qu'il lui fallait trouver de quoi s'amuser, parce que le cadre formel extrêmement strict de la symphonie classique était parfois très contraignant. Un cadre d'ailleurs qu'il a largement contribué à mettre en place, au point qu'il soit surnommé le père de la symphonie.
Est-ce qu'après on revient à des oiseaux au chant plus mélodieux ?
Oui, rassurez-vous. La musique romantique, qui suit donc le classicisme, va mettre bien davantage l'accent sur l'expression personnelle des artistes, mais aussi sur la mise en scène musicale. Prenez le célèbre Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. C'est un poème symphonique, donc une œuvre musicale orchestrale mettant en musique une idée non musicale, à savoir ici un défilé comique d'animaux divers, mais le comique n'empêche pas non plus une grande expressivité artistique du piano, tandis que l'oiseau en question dans cet extrait est parfaitement reconnaissable.
Je ne dirais pas que le coucou est le premier oiseau qui me vienne en tête lorsque je pense au chant mélodieux.
Bon, l'œuvre suivante d'Igor Stravinsky devrait dans ce cas davantage vous plaire. Il s'agit du Chant du Rossignol, un autre poème symphonique composé en 1917.
Incroyable, j'adore Stravinsky.
Avec Stravinsky, nous entrons dans la musique moderne, dans laquelle le cadre formel est de plus en plus remis en cause et l'expressivité emphatique du romantisme laisse place à une recherche bien plus approfondie de nouvelles sonorités et impressions musicales. Écoutez plutôt.
« Ce sont de très belles musiques, Maëlig, mais le temps commence à manquer.
Dans ce cas, pour conclure cette exploration musicale des oiseaux, je vous propose d'écouter un extrait de la dernière œuvre d'Olivier Messiaen, composée en 1991. Ce dernier, compositeur de la période contemporaine, fut aussi un grand ornithologue et les oiseaux, leur chant et leur environnement ont eu une place très importante dans son œuvre. C'est donc tout naturellement que son Éclair sur l'au-delà, une œuvre massive très ancrée dans sa foi catholique, comporte un mouvement intitulé « Plusieurs oiseaux des arbres de vie », dont voici un extrait.
Merci Maëlig. On continue notre visite, ça doit être par là, je suppose. C'est dingue, on se croirait dans la jungle.
Regarde ce qui se passe au-dessus de nos têtes, c'est pas les avions qu'on a en ville.
Je crois que tu avais raison, ma gaboche, cette petite escapade va nous rapprocher. Tiens, question, si j'étais un oiseau, je serais lequel ?
Mais enfin, ma Clara, tu sais bien qu'on serait des pigeons.
La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe.
Le blanc crapaud ?
Chut ! Vous allez les déranger.
Mais qui ça ?
Levez la tête, chers amis, et soyez aux aguets. Nous allons bientôt assister à la parade nuptiale de l'oiseau du paradis.
Une parade nuptiale ?
Oui, c'est un outil de séduction très important pour les oiseaux. Elles sont souvent très élaborées. Elle va permettre aux mâles de montrer leurs qualités génétiques et physiologiques aux femelles. En gros, c'est un peu comme si un animal disait « Regarde-moi, je suis super et je serai un excellent partenaire pour toi et nos futurs petits ». C'est le seul moyen pour les mâles d'être choisis pour la reproduction. Car oui, chez les oiseaux, c'est la femelle qui va accepter ou non de se reproduire avec un individu.
C'est un peu le Tinder des oiseaux.
Exactement. Le mâle doit donc redoubler d'astuces pour séduire sa belle. Il va donc falloir danser, chanter, offrir des cadeaux ou encore se faire beau. Cela va dépendre des espèces, bien sûr. On a tous en tête, par exemple, le paon qui parade avec ses plus fiers atouts en faisant la roue. Mais les rapaces sont également réputés pour leur parade aérienne, pas piquée des canetons, lors desquels les deux oiseaux volent, se laissent tomber, tourbillonnent et repartent vers les nuages ensemble.
Oh, c'est romantique, j'adore.
Parfois, nos amis à plumes ne sont pas très agiles. Alors, quand on ne peut pas participer à Danse avec les stars, on mise sur notre beauté. C'est le cas du fou à pieds bleus. Vous savez, cet oiseau du Pacifique qui a les pieds...
bleus !
C'est bien, je vois que vous suivez. Figurez-vous qu'il est très maladroit sur ses pattes. Alors, plus ses pieds sont bleus, plus il a de chances de se reproduire. Pour cela, il faut qu'il se nourrisse en grande quantité de poissons, dans lequel on retrouve un pigment caroténoïde qui donne cette fameuse couleur. C'est d'ailleurs un signe de bonne santé, car le pigment va venir booster son système immunitaire. Donc, plus ses pieds sont bleus, plus le mâle est en bonne santé. La parade consiste alors à se balancer d'une patte à l'autre pour montrer à sa belle ses beaux pieds bleus.
Heureusement qu'on se séduit pas avec nos pieds, nous.
Une autre méthode de séduction que je trouve très impressionnante est celle des oiseaux jardiniers. Ces oiseaux vont construire ce qu'on appelle un berceau nuptial pour y attirer une femelle. C'est une véritable petite maison faite de brindilles qu'il construit. Il va également la décorer à l'aide de plumes, de coquillages ou de fleurs, par exemple. Certaines espèces, comme le jardinier satiné, écrase des baies à l'aide de bouts de bois. Et ensuite, il va venir peindre les murs de sa maison.
Waouh, la classe !
Et c'est pas tout. Certains, comme les jardiniers à nuque rose, vont même utiliser des effets d'optique en plaçant les pierres autour du berceau d'une certaine manière pour paraître plus grand et donc plus fort lorsqu'ils se tiennent devant l'entrée du berceau.
C'est super stylé, donc il construit une véritable maison pour sa partenaire ?
Oui et non, car en fait, après s'être reproduit, la femelle doit quitter le berceau nuptial seule pour construire son nid ailleurs. Pendant que le mâle, lui, il va retoucher son berceau nuptial pour faire la cour à d'autres demoiselles.
Quelle déception ! Les hommes sont tous les mêmes, finalement.
Ah, détrompez-vous ! Les oiseaux sont plutôt du genre fidèles à leur partenaire. On estime qu'environ 90% des espèces d'oiseaux sont monogames. Beaucoup ne tombent amoureux qu'une seule fois. On assiste même à des sortes de mariages, comme par exemple le manchot empereur qui va offrir une pierre pour sceller son union avec sa femelle.
Ah, tu me redonnes espoir. Mais quel est l'intérêt pour les oiseaux d'être aussi fidèles ?
Excellente question, jeune fille. En fait, les oiseaux ont vite compris qu'il faut être deux dans la vie. Et oui, quand ils quittent le nid pour aller chercher de la nourriture, ils ne peuvent pas le laisser sans surveillance. Beaucoup de prédateurs sont vraiment friands des œufs. Il faut donc qu'il y ait deux parents, un des deux parents qui reste pour monter la garde. En plus de ça, un oiseau qui quitte sa femelle pour une autre sera beaucoup moins attrayant aux yeux des autres. Oh ! Baissez-vous ! Voilà une femelle qui arrive ! Regardez comme il s'est fait beau ! Vas-y, champion ! Oups, pardon, je parle peut-être un peu fort.
Oh, faut pas stresser, regarde, il est beau comme un camion, il devrait y arriver.
C'est quand même super apaisant, ça me donne envie d'écouter du Bob Marley. Je suis sûre que ça va l'aider à draguer en plus.
Viens, on s'écarte pour pas le déranger. Je te mets Three Little Birds de Bob Marley.
Ah, on a bien fait d'emmener l'enceinte, c'est quand même idyllique comme cadre.
On est juste à côté d'une maisonnette trop mimi, c'est parfait.
Non mais c'est pas bientôt fini ce boucan là, vous dérangez les piafs.
Pardon, décidément.
Bon, quitte à m'embêter, je vais vous raconter le sujet de mes études. Ah, inspirez-vous de la nature, c'est là qu'est notre futur. Cette phrase citée par Léonard de Vinci, il y a bien des siècles, témoigne de l'importance de notre environnement. Car il suffit d'observer ce qui nous entoure pour comprendre que, pour chaque défi technique rencontré par l'homme, il y a de fortes chances que l'une ou plusieurs des 30 millions d'espèces vivant dans le monde aient dû faire face au même défi. Mais en plus, aient développé des stratégies efficaces pour les résoudre, stratégies qui peuvent nous inspirer.
C'est vrai qu'avec tous ces millénaires d'évolution, les animaux ont eu le temps de s'adapter.
Cette vision du monde est permise par une discipline nommée biomimétisme. Il s'agit pour l'homme d'imiter le vivant, d'imiter les processus qui se déroulent dans la nature environnante. Bien qu'utilisée depuis fort longtemps, cette notion de biomimétisme a été théorisée il y a peu et a été popularisée en particulier par une scientifique américaine, Janine Benyus. Elle a développé dans plusieurs ouvrages la théorie selon laquelle l'homme devrait répliquer le génie de la nature afin de créer des technologies en harmonie avec l'environnement. Et quoi de mieux pour cela que d'étudier les oiseaux, de véritables forces de la nature ?
Super, mais de quels oiseaux peut-on bien discuter ? Il faudrait partir à la pêche aux informations, ça en fait des espèces à étudier.
La pêche ? Mais oui, je peux vous parler du martin pêcheur. Connaissez-vous le Shinkansen ? Cet train japonais particulièrement performant sillonne le pays du soleil levant depuis 1964. Mais dans 1999, une nouvelle série de ces trains est lancée sur le marché avec une particularité. Son nez, l'avant du train, est maintenant profilé à la manière d'un oiseau. Mais pas n'importe lequel. Il imite la forme du bec du martin pêcheur, Alcedo atis en latin. C'est un petit oiseau, environ 16 cm, au plumage bleu et roux, avec de magnifiques reflets cyan et cuivrés. Et comme son nom l'indique, son alimentation est principalement composée de poissons qu'il pêche en eau claire. Grâce à sa forme fuselée et à son bec pointu, lorsqu'il plonge dans l'eau pour saisir sa proie, il le fait sans aucun bruit, ni la moindre éclaboussure. Et cela a intéressé grandement les ingénieurs des trains japonais.
Mais en quoi une méthode de plongée peut intéresser des ingénieurs de train ?
Car l'eau et l'air sont tous deux des fluides. En effet, jusque-là, la vitesse des trains devait être réduite au niveau des tunnels pour éviter l'effet piston, la compression rapide et puissante de l'air, créant un bruit assourdissant. Cela pouvait également endommager l'appareil ou perturber les voyageurs. Mais grâce à cette forme inspirée du martin-pêcheur, les trains peuvent à présent pénétrer dans les tunnels sans problème, aussi silencieusement et délicatement que l'oiseau. Mais cela a aussi eu un impact sur leur vitesse. Auparavant, avec des vitesses de croisière de 240 km/h, cette nouvelle technologie propulse les trains à près de 360 km/h aujourd'hui. La SNCF a de quoi être jalouse.
Ah bah super, taper sur les systèmes publics, c'est chouette ça.
Oh, chouette, une autre transition, parfait. Avez-vous déjà été aux abords d'une éolienne ? Le vrombissement constant de leurs pales peut parfois empêcher les habitants des quartiers non loin de dormir. Heureusement, le biomimétisme s'est attaqué aux problèmes causés par ces géants de fer et a trouvé une solution en s'inspirant des « plumes de hibou ». Des chercheurs ont enquêté pour déterminer comment ces rapaces volent en silence afin de développer des matériaux qui pourraient diminuer les décibels des pales d'éoliennes. Ainsi, la chouette effraie ou la chouette lapone, par exemple, sont capables de chasser d'une façon furtive, d'abattre et de capturer leur proie sans être détectées.
Mais oui, j'ai même entendu que lorsqu'elles chassent, elles peuvent tourner la tête jusqu'à 270 degrés pour analyser leur territoire.
En étudiant les plumes de l'animal, ils ont conclu qu'en vol, elles devenaient duveteuses. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi analysé que les ailes devenaient flexibles et élastiques. Habituellement, le passage de l'air sur la surface de l'aile de part et d'autre génère un bruit, mais les ailes des chouettes atténuent ce phénomène et l'air grâce à cette stratégie.
D'où la chasse tout en discrétion. Mais quel lien avec les éoliennes ?
Eh bien, afin d'offrir ces capacités à des pales d'éoliennes, les chercheurs ont conçu un matériau prototype en plastique imprimé en 3D, qui pour le moment a réduit de 10 décibels le bruit de l'appareil.
Pas mal, en effet. Mais il n'y a pas des oiseaux plus grands dont on pourrait s'inspirer ?
Oui, il y a le flamant rose par exemple. Oiseau majestueux retrouvé en Afrique, Asie ou encore Europe du Sud, sa physique a de quoi inspirer les ingénieurs. Et c'est d'ailleurs le coup des flamants roses qui va intéresser les chercheurs. La combinaison entre force et flexibilité de cette partie de leur anatomie a donné lieu à de nombreuses améliorations dans le domaine des soins, comme des prothèses intelligentes. Ces prothèses peuvent notamment bloquer certains mouvements d'un bras cassé, sans immobiliser totalement le membre, permettant ainsi aux patients de perdre moins de masse musculaire pendant que les os se ressoudent.
Ah ouais ? J'aurais pensé qu'on se serait plus intéressé à la capacité des flamants roses à tenir sur une patte. Ça doit demander une sacrée endurance.
L'équilibre légendaire des flamants roses est en effet observé de près. Les premières théories suggéraient que cette technique permettait à ces oiseaux d'alterner le poids de leur corps sur une patte, puis sur l'autre. Mais il n'en est rien, ils restent constamment sur la même patte, et ce, même quand ils sont morts. Avec le bon angle et la bonne position, ils arrivent à nier les contraintes de la gravité. On pourrait par exemple s'inspirer de cette prouesse mécanique pour développer des robots extra-stables à consommation réduite en énergie.
Bon, Clara, je crois qu'on a appris plein de choses, mais on y va, non ?
Oui, viens ma gaboche, on va voir ailleurs.
Surtout que ça cassait pas trois pattes à un canard non plus.
Oui, il y avait pas de raison de nous voler dans les plumes comme ça. Hein.
Elle nous a cloué le bec, c'est le moins qu'on puisse dire.
Manque plus qu'elle nous traite de tous les noms d'oiseaux.
Elle a vraiment une cervelle de moineau, je trouve.
On est un peu partis comme des poules mouillées.
On a un peu fait l'autruche sur ce coup-là.
En même temps, elle était bavarde comme une pie.
Mais au moins, on va pouvoir faire notre nid douillet ici.
866, 867, 868, 860...
Mais qu'est-ce que vous faites là ?
Oh, et voilà que je perds encore le fil de mon comptage de mes perroquets à croupions bleus. C'est la quatrième fois cette semaine.
Oh, excusez-nous, c'était pas le but de notre...
Vous savez combien de temps ça m'a pris pour déjà trouver un endroit propice pour cette espèce et ensuite attendre le bon créneau horaire pour qu'il soit ici ? Nom d'un buzzard cendré.
Vous avez vraiment l'air de vous y connaître en oiseau en tout cas.
C'est le tutu en plume, le bec en carton ou la pancarte cuicui qui t'a induit dans cette piste.
Alors je ne vous permets pas, j'ai pris 3 mois pour confectionner cet accoutrement et j'en suis très fière. Hein. Et concernant les oiseaux, oui, je m'y connais. D'ailleurs, comme vous m'avez coupé en plein travail, vous n'avez pas le choix que d'écouter une de mes histoires.
Ah bah génial ça, même pas on nous demande notre avis. Super.
Ouais.
On s'installe et on vous écoute.
Alors, juste le temps de sortir mon gros bouquin sur les piafs et je suis à vous. De quoi puis-je parler aujourd'hui ? Ah, je sais. Connaissez-vous Raphus cuculatus ?
Non, aucune idée. J'ai arrêté le latin en 3e et c'est pas pour rien.
Je suis partagée entre le désespoir de cette réflexion et une excitation folle d'enfin partager ma science et mon savoir. Enfin, son nom courant vous sera peut-être plus parlant. Je vais donc vous conter l'histoire triste du dodo.
Oh mais non, je veux pas pleurer, j'ai un petit cœur sensible, moi.
Également appelé dronte de Maurice, cette espèce d'oiseau aurait vu le jour il y a 4 millions d'années. On le trouvait uniquement sur...
l'île Maurice.
C'est bien, vous écoutez. Alors, le dodo fait partie de la famille des Colombidae. À vos regards dubitatifs, je vois que je dois développer. C'est un pigeon, quoi, hein, les deux espèces ont la même branche. Maintenant, utilisez votre imagination pour visualiser le dodo. Il faisait entre 70 cm et 1 mètre pour un poids moyen de 10 kg. Ah, j'ai une illustration juste ici pour que vous voyez mieux. Les premiers à le mentionner sont des navigateurs hollandais en 1598.
Et c'était quoi leur but? Parce que c'était pas la porte à côté, il leur fallait des mois pour contourner les côtes africaines avant d'arriver dans le bassin de l'océan Indien où se trouve l'île Maurice.
Remettez dans le contexte de l'époque, hein. On était en pleine période coloniale et esclavagisme, donc Maurice était une terre de choix pour avoir une main sur le contrôle de l'océan Indien. Bon, pour les Hollandais, ça n'a pas été concluant, hein, car pas assez de financement. Ils quittent l'île en 1710, pardon, avant que les Français viennent la coloniser à leur tour 5 ans plus tard.
Attends, il y a un truc que je comprends pas. Le sujet de base, c'est ton gros pigeon, le dodo, là. Et là, tu dérives complètement.
Ah oui, ça. Et elle est où, l'histoire triste?
J'y arrive, bande d'oiseaux-mouches. Je reprends une illustration du dodo. Là, voilà. On remarque la présence des ailes chez cet animal. Et pourtant, il était dans l'incapacité de voler.
Certainement une histoire d'évolution, tout ça.
Cui-cui, c'est ça. Enfin, la théorie la plus probable est que l'ancêtre du dodo serait arrivé en volant avant de mettre pied à terre sur Maurice. Île déserte, sauvage et surtout sans prédateurs. Dans ces conditions, l'évolution a effectivement fait son travail. Et le dodo a perdu sa capacité à voler. Mais également son instinct de survie face aux non-prédateurs.
Oh non, je le sens mal cette histoire.
Pas de prédateurs, mais quand...
Quand l'homme est arrivé, sont face à eux de la bonne grosse volaille qui ne les fuyait pas. Et là, c'était le début de la fin.
Oh non !
Il n'a fallu même pas un siècle pour que le dodo disparaisse complètement et qu'on ait des traces de lui que dans les livres. Je rappelle que l'espèce existait depuis presque 4 millions d'années. Hein.
Oh mais vu à cette échelle, c'est désastreux.
Surtout que c'était une espèce unique qui ne vivait qu'à Maurice. C'est une grande perte.
Le pire dans tout ça, c'est que la viande de dodo n'était même pas si bonne que ça à manger. Mais bon, quand t'as passé 3 mois sur un bateau, tu prends ce qu'il y a. Hein. La morale, si on peut dire qu'il y en a une dans cette histoire, c'est de se questionner sur notre impact. Le dodo, c'est l'un des premiers cas et exemples de la disparition d'espèces directement dues par l'être humain. Une situation qui est toujours d'actualité. Ces espèces ne reviendront pas et ne sont observables que dans des muséums. Agissons alors au mieux pour ne pas laisser d'autres espèces être des vestiges du passé par notre faute.
Effectivement, c'est triste. Je suis émue.
La vie du dodo compte. Dodo's lives matter.
C'était la fin! Bon, j'espère pas vous avoir trop plombé le moral. Sur ce, je me tire. J'ai des grues à coups noirs à examiner. Bon vol et souvenez-vous du dodo.
Oh bah ça m'a rendu un peu triste tout de ma Clara. L'aventure, ça n'a pas que du bon.
On est peut-être pas si mal dans notre petit havre de paix, mais je suis quand même ravie d'avoir passé cette journée avec toi. On devrait tout de même le faire plus souvent.
Oui, je suis d'accord. Ça nous fait du bien d'être que toutes les deux, seules.
Hé hey, les filles, je suis contente de vous avoir trouvées. Cette réserve naturelle est un vrai labyrinthe.
Clara, qu'est-ce qu'il fait là ton pote?
Oh Maxime!
Je voulais vous retrouver parce qu'il faut absolument que je vous raconte ce qu'on a de prévu cette semaine. On commence avec le prochain apéro recherche, organisé par l'université Bordeaux-Montaigne. Retrouvez Pierre Sauvanet, directeur de l'unité de recherche Artes, qui viendra nous présenter la recherche en art. Rendez-vous le 26 mars à 19h dans l'atrium de la bibliothèque universitaire Droit-Lettres. Si vous voulez approfondir le sujet, il y a également la double exposition illustration entre sciences et arts au muséum et au jardin botanique de Bordeaux. À travers une série d'ouvrages, planches et illustrations, l'exposition illustre la richesse des objets à la frontière entre art et science. Elle reste ouverte jusqu'au 30 juin, du mardi au dimanche, entre 10h30 et 17h30 au muséum, et entre 11h et 18h au jardin botanique.
Et c'est tout, hein?
Mais non, enfin! Il y aura bientôt un nouveau Rencard du Savoir organisé par l'Université de Bordeaux. Il se déroulera le dimanche 17 mars à 17h à Cap-Science. Jean-Marc Alexandre, assistant de recherche clinique au laboratoire SAMPSY, Zoé Wendt, chargée de prévention dans l'association Addiction France, et Mathieu Danias Uraga, docteur en psychologie du développement, discuteront du potentiel addictogène des écrans, et notamment des réseaux sociaux. Toujours dans le registre du numérique, l'exposition sur le numérique responsable se déroule du 12 au 30 mars à la bibliothèque du Haillan. Venez découvrir les enjeux environnementaux du numérique, impliquant notamment l'extraction des matières premières, ainsi que la fin de vie des équipements. La bibliothèque est ouverte entre 9h et 17h.
Oh mais ça a l'air super. Tu vois Gabriel, on a encore plein de nouvelles aventures à vivre.
Merci Clara d'avoir animé cette superbe émission à mes côtés.
Merci Gabriel, j'espère que ça vous a plu.
C'était Science à l'antenne sur Radio Campus 88.1.
Et on se retrouve dans 2 semaines, même horaire, même radio.
Pour la dernière émission de cette saison, séchons nos larmes.
On parlera de musée.
Parfait donc pour clôturer cette aventure tous ensemble. Soyez au rendez-vous et au revoir.